Panorama Économique.
Bienvenue à toutes et à tous, messieurs, dames, à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres, nous parlerons essentiellement de la conférence internationale sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs clôturée jeudi à Kinshasa. Panorama économique revient aussi sur cette réunion extraordinaire du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo mardi. Cette réunion a été dictée par la surchauffe sur le marché d'échange, obligeant la Banque centrale du Congo de vendre 50 millions de dollars américains pour résorber la liquidité. Certains dispositifs de la politique monétaire de la BCC ont également été revus. Et dans ce studio de Panorama économique, pour décortiquer chacune des thématiques retenues pour la conférence internationale de Grand Lac et autres infos de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Walesa. Il est le président du Fonds d'investissement des Congolais expatriés. Philippe, bonjour et bienvenue dans notre studio.
Merci, bonjour aussi.
Panorama économique, le dossier.
Encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Un seul sujet dans le dossier de la semaine, la conférence internationale sur l'investissement du secteur privé qui a vécu cette semaine, mercredi et jeudi à Kinshasa. Je veux ici vous faire revivre les moments forts de la cérémonie d'ouverture par le chef de l'État, Joseph Kabila, en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, des chefs de gouvernement, des investisseurs et plusieurs autres délégations qui ont fait le déplacement de Kinshasa. D'abord, Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo, qui a parlé au nom de tous les opérateurs du secteur privé de la région des Grands Lacs. Il faut pour lui réunir quelques préalables devant permettre l'attraction des investissements privés dans la région. La paix et la sécurité, a dit Albert Yuma.
Parmi ces défis, et pour ne pas citer la consolidation de la paix, le maintien de la sécurité qui constitue l'indispensable soubassement de toute activité économique, il y a lieu de mentionner 1. Le désenclavement géographique par le développement d'un réseau routier et ferroviaire régional qui permettra à nos entreprises d'atteindre tout autant les façades ouest et ouest de notre continent que de fluidifier les échanges de notre interland. 2. La compétitivité des facteurs de production, comme l'énergie, par la réalisation de grands projets collectifs à l'échelle du bassin du Congo, par exemple. 3. L'élargissement des marchés potentiels, par la levée des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges frontaliers. 4. La diversification de nos économies, trop largement dépendantes des cours mondiaux des matières premières, via des projets agro-industriels et industriels d'échelle sous-régionale. 5. Renforcer l'intégration financière de nos pays, en dotant les systèmes bancaires d'outils propres à permettre aux banques commerciales de la sous-région de traiter directement entre elles. Enfin, l'harmonisation des réglementations liées à nos échanges communs, comme récemment ce fut le cas sur les certificats miniers.
Des préalables qui nécessitent des décisions politiques courageuses. Un autre discours attendu à cette conférence, c'était celui du secrétaire général des Nations Unies. Ban Ki-moon a invité les conférenciers à étudier les causes profondes de la pauvreté dans la région des Grands Lacs, une pauvreté qui contraste avec la richesse. Il a toujours fasciné chaque fois qu'il vient en RDC et dans la région des Grands Lacs.
J'ai eu l'honneur de venir en RDC et dans la région des Grands Lacs à plusieurs reprises depuis que je suis secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. J'en suis toujours reparti fasciné par l'ampleur des possibilités qu'elles offrent. Leur potentiel est immense. On le sait, la région possède d'abondantes ressources naturelles, mais on sait moins que ses habitants sont très travailleurs. La succession des conflits et des souffrances les a empêchés de réaliser leur potentiel. Nous savons que pour briser le cycle, il ne suffit pas de régler les problèmes de sécurité. Il faut s'attaquer aux causes profondes. Pour cela, il est nécessaire de fonder le développement économique et social sur des bases stables. Il faut une bonne gouvernance et un état de droit. Il faut des populations en bonne santé, éduquées et dynamiques. Il faut qu'une chance soit donnée à toutes les femmes et à tous les hommes et qu'ils puissent occuper des emplois décents.
Avec une population estimée à 370 millions d'habitants, la région des Grands Lacs constitue un marché le plus grand et le plus important. Les secteurs publics et privés doivent travailler ensemble pour créer des emplois et lutter contre la pauvreté. Le secrétaire général des Nations Unies l'a dit et le président Joseph Kabila aussi. Le chef de l'État congolais a, en plus du travail que doit faire conjointement le secteur public et privé, appelé les Africains des Grands Lacs à lutter contre la corruption. On l'écoute.
J'ai bon espoir que ces assises permettront une véritable interaction entre les acteurs du secteur privé et les décideurs politiques au niveau national, régional et international, réunis dans cette salle, en vue de consolider la montée en puissance de la croissance en cours dans la région, de matérialiser la création des emplois et de tourner ainsi définitivement la page sombre de la violence dans notre espace régional. Il va sans dire que le prochain tournant de notre action devra porter sans aucun doute sur la promotion de l'intégration de nos économies. Il faudra par ailleurs poursuivre nos efforts en vue de l'élimination de tout obstacle à la libre circulation de personnes, de biens et de capitaux dans la région. Je ne saurais terminer mon propos sans lancer un vivant appel aux pays membres de notre organisation régionale et aux investisseurs à faire face aux défis susceptibles de compromettre notre vision commune de la promotion du développement économique de la région. Au niveau des États, en plus de la création de cadres législatifs nécessaires à la mise en œuvre des partenariats publics-privés qui s'imposent, il faudra poursuivre la lutte entamée contre le fléau de la corruption qui gangrène souvent nos administrations publiques et constitue une source de démotivation des investisseurs. Il s'agit également d'accélérer l'amélioration du climat des affaires avec comme finalité la simplification des procédures administratives qui plombent l'implantation rapide de nouveaux investissements publics et privés. Il s'agit enfin de consolider les efforts entrepris en vue de redressement des appareils judiciaires de nos États de manière à offrir la sécurité judiciaire voulue aux capitaux investis.
Après deux jours de riches discussions en plénière et en atelier, la conférence internationale s'est clôturée sur une note de satisfaction des organisateurs. Je n'en dis pas plus, mais je vous propose plutôt d'écouter l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Il était accompagné du secrétaire exécutif de la CIRGL lors de la conférence de presse marquant la fin des travaux de cette conférence. Saïd Junit parle ici de l'intégration et de l'ensemble des deux jours passés à Kinshasa.
On ne peut pas faire une intégration sans une certaine normalisation. Évidemment, nous, en tant que Nations Unies, soutenons fortement les efforts de la CIRGL et des autres organisations de la sous-région. J'ai appris aujourd'hui que trois pays, comme le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda, ont fait des efforts en termes de circulation des personnes. Nous voulons que ce soit élargi à tout l'espace CIRGL. Nous allons soutenir tout effort de la CIRGL et des autres organisations régionales pour introduire des normes, pour faciliter l'intégration. S'agissant de la question aussi pertinente de la double appartenance, de la triple appartenance, vous savez, vous ne pouvez pas éviter ça. Même dans la famille, vous ne pouvez pas éviter ça. Vous avez des cousins, vous avez des frères, vous avez des enfants. C'est ça que l'esprit de famille. Nous avons des grandes familles dans la grande famille. Et la région des Grands Lacs est une famille. Il y en a qui sont membres de l'East African Community, de la CIGLR, et de François Loabadi, que ça s'imbrique. Nous avons, c'était je crois à la fin de l'année, tenu une réunion que j'ai convoquée en tant qu'envoyé spécial avec la CIRGL, la SADEC, l'IGAD, la COMESA, justement pour, et nous sommes mis d'accord pour nous réunir régulièrement pour rationaliser et intégrer nos programmes pour éviter des doubles emplois. Et moi, je voudrais en conclusion vous remercier pour votre intérêt à cette conférence. Je vais vous dire très simplement et sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'organisateur avec la CIRGL, nous avons été très impressionnés par la participation, le niveau de participation. Nous n'attendions pas autant d'intérêt, aussi bien du secteur privé, congolais, régional, africain et international. Nous avons eu des secteurs privés américains, européens, indiens, arabes et autres, canadiens et tous les pays. Nous avons eu des hommes d'affaires d'Afrique, de la région. Vous avez des gouvernements de toute la région, des partenaires, des experts indépendants. Je crois que ça a été un moment formidable. Et vraiment, la conférence a été un succès. Donc, nous avons eu une bonne participation. une bonne qualité de discussion, un intérêt formidable. C'est une conférence qui a été couronnée de succès et en tant que co-organisateur, nous sommes très très réjouis de ce résultat.
C'est le moment de donner maintenant la parole à notre invité qui est avec nous dans ce studio, Philippe Walesa. Vous avez participé à cette conférence et vous avez suivi tour à tour les différents discours. D'abord, la FEC qui a parlé de quelques préalables en plus de la stabilité, de la sécurité. Il faut ouvrir une route qui peut relier l'Est et l'Ouest de l'Afrique et il faut aussi assurer l'intégration financière. Le secrétaire général des Nations Unies qui a parlé de la bonne gouvernance et d'état de droit. Le président de la RDC qui a parlé de l'intégration économique et qui demande aux États de lutter contre la corruption. Quels commentaires vous placez après avoir écouté tous ces discours?
Bon, merci de l'occasion que vous m'offrez pour m'adresser aux millions de d'auditeurs de la grande radio de la paix. J'ai suivi tous ces discours-là. J'ai été dans un atelier de l'agriculture, par exemple, et j'ai posé la question à M. John, qui est conseiller de M. Matata, et qui est le géniteur du projet Bukangalonzo. Je ne sais pas si je prononce
Bukangalonzo, oui.
Oui, j'ai lui demandé s'il pouvait donner des garanties, puisqu'on ne peut pas parler d'investissement là où il y a la corruption. Et que ce soit au niveau du Congo démocratique ou des autres pays de la région, quelles avaient été les mesures prises ou qui peuvent être prises pour réduire quand même les taux de la corruption. Alors, sans que cela, on n'a pas eu de réponse à ça. Et j'étais sur terrain dans les bandes de nous, je suis allé dans les cris loups profonds et j'ai ramené des choses qui sont beaucoup plus étonnantes. Et on trouve que la population est laissée pour compte. Alors, c'est bien beau que les présidents le disent, mais les gens veulent voir des actes concrets. J'ai encore en mémoire la table ronde qui a eu lieu en septembre pour la protection sociale. Et finalement, ça n'a jamais, les recommandations n'ont jamais été exécuté parce qu'il fallait passer par le conseil des ministres, aller au niveau de l'Assemblée nationale et puis avoir l'assentiment du président de la République. C'est que ça avait suscité l'espoir, mais rien n'a été fait. Pour moi, je pense que le plus grand problème aujourd'hui, c'est l'organisation. Ça manque beaucoup puisque les Congolais sont habitués maintenant à ce qu'on appelle quick money. C'est qu'ils veulent avoir l'argent facile et directement. Ils n'ont pas la culture d'investissement. Ils ne projettent pas les choses sur le long terme. Et ça, c'est un véritable cancer. C'est là où je dis, on peut beau dire, on peut tenir tous ces discours-là, mais s'il n'y a pas un engagement réel, ça ne peut pas donner. Et ce que je peux retenir de ça, on a une bonne expérience au niveau du Canada ou ailleurs, où il y a plusieurs ethnies qui vivent ensemble, plusieurs nationalités qui vivent ensemble, et on a trouvé que c'est une richesse. Et on peut profiter, nous qui venons de la diaspora, puisque nos intérêts sont différents. Nous, on ne regarde pas comme ici, puisque ici, les gens se résument en termes de tribalisme. Vous êtes de quelle tribu, vous êtes de... Ça, ce sont des grands freins. Mais nous qui avons été ailleurs, nous qui connaissons l'essence, l'utilité de l'intérêt, nous sommes en mesure de, au nom de l'intérêt là, réunir toute cette masse-là, que ce soit la masse congolaise, rwandaise. Je donne un exemple, ça ne fait pas longtemps, il y a quelqu'un, un prêtre qui avait tenu une messe à Kisangani et il avait posé la question pour savoir qui sont les pays qui font frontalier du Congo RDC. On a cité d'autres pays, mais on n'a pas cité le Rwanda. Pourquoi? Parce que la population trouve que même dans l'église, il n'y a pas de solution là-dessus. Mais la seule solution, c'est qu'il faut amener les gens vers l'intérêt économique. Et là, je crois que la conférence a toute sa chance. Et ça donne une bonne opportunité. On parle de garanties juridiques à donner. Nous, on veut qu'on l'écrive tout simplement. Au lieu que ça reste lettre morte, que ça reste tellement des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir de référence. Le problème de la situation au Congo, on parle, mais on ne peut pas trouver une documentation. Il y a, par exemple, de grandes compagnies de hedge funds qui veulent investir, mais ils veulent travailler avec des maisons qui peuvent les renseigner sur les risques dans tel domaine ou dans un autre. Ça n'existe pas sur l'espace. Et nous pensons qu'avec la vulgarisation, avec les méthodes qui ont fait leurs preuves ailleurs, nous sommes en mesure sérieusement à susciter ces besoins, cet intérêt au niveau de toutes les couches, et c'est vers là qu'il faut aller. On peut parler de l'argent, c'est pas un problème d'argent, puisque quand la Banque mondiale est venue, quand la Banque africaine est venue, on s'est retrouvé que ce soit les ONG, que ce soit les entreprises, tout le monde parle en termes d'argent. Tout le monde trouve son intérêt. Mais on a oublié la population. Mais nous, nous devons inverser la tendance pour travailler avec la population. Parce que je le dis, je le répète, dans tous ces pays-là, il n'y a pas d'argent. Tout ce que le pays demande, qu'on demande, c'est l'organisation. Mais si au niveau politique, l'organisation tient à venir, mais au niveau privé, nous sommes en mesure à faire remonter la filière pour qu'on travaille dans une cohésion, pour qu'on travaille en synergie, que ça produise les résultats. Aujourd'hui, on a des possibilités, comme il n'y a pas de fonds de retraite, où il n'y a pas d'assurance qui marche, et c'est vers là qu'il faut tendre. C'est qu'on ne peut pas attendre. D'ailleurs, si on parle de Banque mondiale, tout ça là, il prête à des taux élevés, comme les banques qui n'ont pas de solution. On a même parlé de créer des banques d'investissement qui n'existent pas. Et à ce moment-là, il y a un réel problème. On peut tout dire, mais ça ne va jamais se résoudre. Mais moi, ce que je pense sérieusement, c'est trouver l'intérêt pour la population. Et cet intérêt-là, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes d'organisation. Lorsqu'on parviendra à faire passer le message, je regrette, il n'y a pas, par exemple, une télévision qui est orientée seulement sur l'économie, qui ne parle pas que de l'économie. On ne voit pas ça pour les valeurs boursières. Mais déjà, avec l'agriculture, tous ces produits-là, ça, nous sommes en mesure, et je donne un bon exemple, vous voyez les agences là de cotation, mais ce sont des agences privées, et puis qui font avancer les choses. Mais pourquoi, au lieu toujours de penser que l'État peut tout faire, ça, nous devons reconnaître, c'est une responsabilité collective. L'État n'est pas en mesure de tout faire. Alors il faudra que, avec cette possibilité, que les privés s'approprient et jouent son rôle malgré les difficultés auxquelles il peut être confronté. Et je trouve pour cela que c'est une bonne initiative. Je remercie les concepteurs de cette idée. Et maintenant, c'est à nous, avec un certain pragmatisme, pour aller vers les résultats.
Vous êtes venu du Canada, justement. Vous êtes le président du Fonds d'investissement des Congolais expatriés, une société de droit canadien. Vous êtes venu participer à cette grande conférence qui a réuni tous les pays de l'Afrique des Grands Lacs. Est-ce que ça vous a donné une idée de ce que ça représente, le marché de l'Afrique des Grands Lacs?
Oui, ça, c'est un énorme marché, et je crois, sans parler au nom du gouvernement du Canada, je n'en ai pas les droits, mais avec les nouvelles politiques qui sont mises en place par M. Trudeau, on fait la promotion de l'investissement. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut remplacer l'aide par les commerces. Et ça, c'est une véritable occasion qu'on donne à nous, les Canadiens, qu'on donne à nous, les Nord-Américains, pour convaincre les gouvernements respectifs de venir avec nous investir. Parce que nous, ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin d'argent. On va toujours le répéter. Les Congolais, ils n'ont pas besoin d'argent. Mais le problème, c'est quoi? Tout le système est pris en tenaille. Je donne un exemple avec FIDA, une organisation qui est basée à Rome, qui intervient dans le domaine de l'agriculture, qui donne de l'argent. Mais ça doit passer par les structures de l'État. Mais quand ça passe là, on demande 15 à 30%. Et ils sont prêts, si vous ne donnez pas, et ils sont prêts à arrêter tout. J'étais dans les cul, je donne les cas par exemple de Papakine et les autres. Alors vous voyez qu'ils prennent les projets des locaux en otage, et à ce moment-là, les autres sont obligés de transiger. C'est que c'est un cancer, on peut beau dire, mais tant qu'on ne peut pas résoudre ce problème-là, c'est que l'administration devient une machine paralysante, et ça, à ce moment-là, ça ne va pas aller. Mais si on donne.
Question de bonne gouvernance et état de droit.
Non, je ne parlerai pas d'état de droit. Il y a des pays comme le Nigeria, il y en a beaucoup où il n'y a pas l'état de droit, les choses avancent. Et nous, nous connaissons toutes ces difficultés-là et nous sommes en mesure d'aller vers les résultats. Mais le problème, c'est quoi? Qu'on nous donne l'espace, déjà avec la NAPI qui semble être là pour soutenir les investissements. On est qui à la NAPI? Tant que la NAPI n'a pas trouvé les comptes, la NAPI n'intervient pas. Alors moi, je pense qu'il faut responsabiliser davantage les particuliers, les privés, qui trouvent des solutions là où ça n'arrive pas, parce que les problèmes du Congo ou les autres, les gens n'ont plus confiance. Et dans un système où les gens n'ont plus confiance, les résultats sont déficitaires. On ne peut rien avoir. De toute l'expérience, de toutes les années qu'on a passées ailleurs, on se rend compte que tout c'est l'organisation, tout c'est la confiance. Alors ça manque, et il faut maintenant regarder comment redonner cette confiance là à la population, qui va créer la richesse et puis créer la prospérité de tout le monde.
Je vous redonne la parole, M. Philippe. J'ai promis qu'on va parler essentiellement de cette conférence internationale sur l'investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Il est temps de continuer avec cette émission.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Les autres informations de la semaine, la surchauffe sur le marché de change a obligé le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo de se réunir en session extraordinaire, c'était le mardi. Le marché a en effet affiché en date du 23 février 955 francs congolais pour le dollar américain après avoir franchi le cap de 945 en fin décembre 2015. Au taux officiel de la Banque centrale du Congo, le taux a franchi la barre de 930 francs congolais le dollar pour se situer à 933. La Banque centrale du Congo s'est vue ainsi obligée de vendre 50 millions de dollars américains pour tenter de régulariser la situation. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Déogracias Mutombo, explique.
Cette situation s'est traduite par une très forte demande qui s'accumule aujourd'hui jusqu'à 80 millions de dollars américains. La pression de cette demande non satisfaite sur les prix de la devise est aussi forte parce que les transactions à la vente s'effectuent entre 955 voire 960 francs congolais et dollars américains au parallèle, alors que à l'interbancaire nous avons clôturé hier à 933 francs congolais et dollars. Certaines banques font des transactions aux alentours de 945-950 et du coup l'écart entre le marché interbancaire et le marché parallèle dépasse de 1%, à la date d'hier à 1,7% d'écart entre le parallèle et l'officiel. Parmi les mesures du côté de la Banque centrale, il a été retenu l'intervention sur le marché d'échange par une vente de 50 millions par voie des adjudications compétitives à taux unique, qu'on appelle la méthode hollandaise, qu'on va effectuer demain. Donc nous allons vendre ces devises, mais ces devises sont destinées aux importateurs de produits de première nécessité. La deuxième mesure, c'est le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire sur le dépôt en devises, qui passe de 7 à 9 pour le dépôt à terme et de 8 à 10 pour le dépôt à vue en devises.
Autre chose, un atelier de l'Organisation mondiale des douanes OMD sur l'application des règles d'origine qui régissent les pays membres du marché commun d'Afrique australe et orientale, le COMESA, s'est clôturé mercredi à Goma dans le Nord Kivu. Les organisateurs de cet atelier voulaient ainsi outiller les agents et cadres de la DGDA sur les différents modules du traité portant sur le libre-échange dans le cadre du COMESA. Retrouvons notre invité pour boucler cette émission panoramique. Économique, je le disais, nous parlons essentiellement de la conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans les Grands Lacs. Philippe, vous avez pris part à différentes sessions thématiques. Il y avait eu une session sur les finances, l'agriculture, les infrastructures, ainsi de suite. Qu'est-ce que les thèmes retenus pouvaient bien apporter dans la région des Grands Lacs?
Oui, merci beaucoup, mais je vais d'abord placer un petit commentaire. Je comprends que le système bancaire congolais est encore très fragile et je vois comment les décideurs peinent à faire que les gens aient confiance pour mettre l'argent dans le système. Parce que s'ils mettaient l'argent dans le système, on va beaucoup recourir à d'autres documents commerciaux. Je vais parler des titres de paiement. Il y a par exemple des lettres de garantie, des lettres
de crédit.
De crédit. Mais on se rend bien compte que comme les gens n'ont pas confiance, tout le monde veut garder l'argent et à ce moment-là, ça oblige les gouvernements à injecter une nouvelle masse. Et ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ça, c'est vraiment un grand problème. J'étais étonné hier, par exemple, dans l'atelier là de finances, la dame qui venait de Bangui demandait au responsable de l'Ecobank s'il y avait la possibilité d'avoir des lettres de crédit. Juste ça. Mais et comment n'était pas en mesure. Mais je crois que c'est le même problème pour le Congo. Mais je crois que il y a beaucoup d'instruments financiers auxquels il faut regarder pour trouver des solutions que l'argent. Et lorsqu'on parle de l'argent, il faut quand même une certaine productivité. Et il faut que les salaires des gens soient payés. Il faut que les services soient améliorés. Mais je crois qu'on est loin de là.
Maintenant, s'il faut revenir sur les différents thèmes qui ont été retenus pour cette conférence, quelles opportunités cela offre, les télécoms, les nouvelles technologies de l'information, la communication, les infrastructures, l'énergie, les mines, tout ça, quelles opportunités à vos yeux pour la région des Grands Lacs?
Oui, d'abord au niveau des télécommunications, il y a un problème au Congo qui ne se pose pas ailleurs. Ailleurs, tout le monde a les téléphones filaires, les téléphones de la maison. C'est même une des grandes recommandations au niveau international. Mais au niveau du Congo, avoir un téléphone filaire, c'est un luxe, c'est impossible. Et il faut aller vers les cellulaires. Et les cellulaires coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Dans mon pays comme au Canada, où, dans l'administration, on ne peut pas utiliser les cellulaires pour communiquer. C'est qu'il y a déjà des gabegies, on perd beaucoup d'argent avec ça. Et au niveau même de la population, c'est la même chose. Combien d'argent la population a perdu en termes de consommation ? Le coût téléphonique là, mais pour nous, nous avons des possibilités à mettre des stations, des relais qui permettent que les gens puissent communiquer avec d'autres moyens comme les talkies, comme les autres là, qui réduisent les coûts et qui créent la richesse. Et là, maintenant, ce sont les sociétés qui sont sur place étrangères qui font beaucoup d'argent, mais ça ne pouvait pas être comme ça. Et l'État est là, il ne réglemente rien, il a libéralisé ce secteur là, et puis il y a ces lobbies là qui orientent les marchés et au détriment de la population. Nous, nous pensons que nous pouvons avoir des ententes avec le gouvernement ou avec des particuliers pour que nous puissions diversifier des produits dans le domaine des télécommunications de manière que ça réduise les coûts et que ça profite à la population. Ça, c'est une bonne opportunité. Et au niveau de l'agriculture également, vous savez que moi, j'ai beaucoup de peine. Quand je me promène dans les Bandundu, à l'Équateur, n'importe où, je vois que nous avons des terres érables, nous avons la verdure partout. Mais les gens ne sont pas à mesure de transformer cette terre-là en création de richesses. Moi, ça, c'est un grand problème. Et au Canada, juste pour voir des espaces vides là, quelqu'un qui les dispose, c'est un millionnaire. Mais le problème aussi des Congolais, ils ont pensé aller en politique pour avoir l'argent. Ils ont pensé faire de grandes études. Mais ils se sont trompés. L'argent, c'est dans le sol. L'argent, c'est dans l'agriculture. Et ça nous donne une opportunité pour, au moins, ramener ces Congolais-là à l'ordre pour dire que c'est dans la qu'il faut avoir, faire beaucoup d'argent.
Mais lorsque les routes de dessert agricole n'existent pas, ça n'encourage pas les gens à produire plus.
Non, mais on peut toujours faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. Et je crois que là, en parlant des infrastructures, je suis de ceux qui pensent que le gouvernement devait permettre aux particuliers, aux privés, de construire des routes d'intérêt national. C'est comme j'ai un cas pour l'office des routes, pour faire une route, par exemple, vers Kipulu. L'office des routes demande à un particulier de donner 100 000 dollars. Bon, maintenant, s'il lui va donner 100 000 dollars, il faudra peut-être qu'avec les ministres de l'économie, les autres là, voir comment ils peuvent faire des compensations. Mais je veux qu'on libéralise, puisque j'ai comme l'impression que le gouvernement profite du fait que les routes ne sont pas faites. Il demande l'argent aux partenaires étrangers. Donc, on donne l'argent là, il l'utilise à autre chose. C'est que ça devient un business. Mais quel est l'intérêt de la population? Et la population voit aujourd'hui, ce qui est anormal, la population trouve que c'est normal. Ça ne devait pas être comme ça. Mais je crois que ça nous donne une bonne possibilité. Et au niveau des finances, c'est là où j'ai vu qu'il y a eu une grande influence. Tout le monde cherchait l'argent, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais là, moi, ma réponse était que au lieu de l'argent, ça prend seulement l'organisation. Qu'on nous donne seulement la possibilité d'entrer en contact avec les paysans, tout l'espace économique là. Nous avons des partis qui ont fait leurs preuves au niveau du Canada, États-Unis. Je peux comprendre que c'est difficile politiquement, même pour Obama, vous savez que nous avons une industrie qui produit des armes qui est très forte. Ça fait deux ou trois mois, Obama a pleuré parce qu'il voulait voir comment il pouvait influencer le concret. Il a pleuré parce que c'était impossible et puis il a avoué que le lobby mentent. On comprend qu'il y a des choses qui sont difficiles politiquement, mais au niveau privé, on peut les rendre beaucoup plus faisables. Je comprends cette difficulté et on peut aller avec cette contrainte-là.
Merci beaucoup, Philippe Walesa. Un mot de la fin avant de dire au revoir à tous ces nombreux auditeurs qui nous écoutent après votre passage à cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Qu'est-ce que le fonds envisage après cette conférence, maintenant que vous avez la réalité de la situation dans les Grands Lacs?
c'est une bonne opportunité pour le fonds et légalement avec l'ONU, avec le gouvernement, même avec des personnes privées, dans le secteur privé, il faut qu'on se mette ensemble. Le problème des Congolais, ils veulent travailler de manière disparate, ils ne veulent pas travailler ensemble. Et nous avons l'exemple avec le Canada qui a réussi, puisqu'il y a beaucoup de coopératives, les concepts de coopératives. Aujourd'hui, tout ce que nous devons faire, c'est essayer un peu de nous mettre ensemble. En nous mettant ensemble, c'est une force et que nous mettons l'intérêt au-dessus de tout le monde. Mais le grand problème au Congo, les gens doivent apprendre à être fiables. Les gens doivent apprendre à ne plus aimer les gains faciles. Ils doivent aimer le pays et je crois que c'est un grand message. Lorsqu'on peut travailler ensemble dans la communauté, vous verrez qu'on n'aura pas besoin et on n'aura pas l'assistance du gouvernement pour apporter le développement. Et je compte beaucoup sur eux pour que les choses changent dans cette direction-là.
Merci, je pense que le message est bien arrivé. Merci Philippe Toalesta. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Retrouvez Panorama économique sur www.radiookapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.
Merci.